VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 19h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du vendredi 15 septembre 2017, dont voici d'abord les principaux titres. Au Tchad, le ministre de la Justice, garde des Sceaux en charge des droits humains, répond à Amnesty International.
Franchement, le rapport n'allait pas être de ce contenu si on avait échangé avec Amnesty avant la rédaction même de ce rapport.
Le ministre Ahama Mahama Hassan. Au Togo, la commission des droits de l'Assemblée nationale examine le projet de réforme constitutionnelle. L'opposition exige la limitation des mandats présidentiels. Génocide rwandais. Le Conseil constitutionnel français maintient le refus à un chercheur de consulter des archives sur le Rwanda. Kim Jong-un continue à défier l'ONU. Pyongyang a tiré un deuxième missile balistique en moins d'un mois. Et retrouvez Nicolas Pineau pour votre page d'espoir et Jacques Aristide qui décortique l'actualité économique de ce soir, juste après le journal. République centrafricaine, un député d'Ombria a alerté sur un risque de famine dans la localité. Les affrontements armés dans cette ville du centre-est ont provoqué la pénurie des denrées alimentaires, n'est-ce pas Freeman Sipila?
Ce sont plus de 40 000 personnes qui sont menacées par la famine à Bria. Les récurrents affrontements entre groupes armés n'ont pas permis le ravitaillement de la ville en produits de première nécessité. Les habitants, eux aussi, craignant pour leur vie, n'osent pas se rendre au champ. Pour Arsène Kongo, député de Bria, si rien n'est fait d'ici fin septembre, la ville va être complètement plongée dans l'insécurité alimentaire.
Tous les véhicules qui quittent Bangui pour Bria ne s'arrêtent qu'à Bambari. Et les produits de première nécessité manquent, par exemple le savon, le sel, le sucre. En plus de cela, une boîte de sardines que nous achetons ici à Bangui à 350 francs coûte 2000 francs. Il faudrait que le gouvernement pense très rapidement à envoyer les vivres au niveau de Bria. Si ça ne se fait pas, je crois que arrivé en fin septembre, vous allez comprendre que à Bria, les gens vont commencer à mourir à cause de la famine.
Alors que la situation sécuritaire reste volatile à Bria, où des groupes armés se regardent en chien de faïence, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu ce vendredi à Bangui. Le président Faustin Archange Touadéra a inscrit dans les priorités de cette nouvelle équipe la pacification du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La coalition d'ONG Code Bleu accuse la mission de l'ONU en Centrafrique de simulacres d'enquête dans des affaires d'abus sexuels attribués à des casques bleus. Détaillant le cas d'une femme, Code Bleu déclare qu'aucun accusé n'a été condamné et que 8 des victimes n'ont pas été interrogées par les enquêteurs. La MINUSCA dit avoir pris des mesures strictes pour lutter contre ce problème et reconnaît également que l'exploitation sexuelle et des cas d'abus sexuels ont sévèrement affecté la crédibilité et la réputation de la mission par le passé. Le porte-parole Vladimir Monteiro a indiqué que la mission va examiner ces allégations de Code Bleu. Le pape François ne se rendra pas à Kinshasa avant la tenue d'élections. Le nonce apostolique en RDC a dit hier que le Vatican veut éviter tout risque de manipulation et a dénoncé un État prédateur de son peuple. Génocide rwandais, je vous le disais dans les titres. Le Conseil constitutionnel français a jugé conforme une loi limitant l'accès aux archives des anciens présidents, premiers ministres et ministres. Cette décision vise surtout un chercheur voulant consulter les archives de l'Élysée sur le Rwanda. Le point avec Morgane Guiriec.
Le requérant, le chercheur François Granet, auteur d'ouvrages sur le Rwanda qui s'était vu refuser la consultation d'archives de la présidence française, reprochait à un article du Code du patrimoine de méconnaître plusieurs droits constitutionnels. Cet article accorde aux ex-membres de l'exécutif ou à leurs mandataires, dans les 25 années suivant leur décès, de garder une maîtrise totale sur la divulgation des documents qu'ils ont versés aux archives, et ce, sans aucun recours possible. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. Le 7 avril 2015, la présidence française avait annoncé la déclassification de ses archives sur le Rwanda pour la période allant de 90 à 95. Un geste fort à l'occasion du 21e anniversaire du déclenchement du génocide rwandais le 7 avril 1994.
Et la Grande-Bretagne fustige le harcèlement et l'arrestation des personnalités de l'opposition au Rwanda après la dernière présidentielle remportée au la main par Paul Kagame. Au Togo, la commission des lois de l'Assemblée nationale a commencé aujourd'hui à examiner le projet de réforme constitutionnelle. La nouvelle version est censée introduire la limitation des mandats présidentiels, comme le précise Dili Diko.
Les travaux de la commission, composée de 9 députés, ont débuté ce matin à huis clos, selon l'AFP. Les débats sont aussi ouverts aux autres députés non membres de la commission des lois. Les représentants du peuple étaient nombreux à avoir fait le déplacement, parmi eux, le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, et 3 ministres. La commission devra ensuite remettre un rapport avant que l'ensemble des députés puissent examiner le texte en séance plénière. La semaine dernière, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi pour répondre aux principales revendications de l'opposition. Ce texte propose un scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours et une limitation des mandats. Le président sera élu pour un mandat renouvelable une fois. L'opposition dénonce cependant une tactique de diversion de la part du régime. L'avant-projet de loi n'étant pas rétroactif, le président fort Gnassingbé, qui en est à son 3e mandat, pourra se représenter aux 2 prochains scrutins. De nouvelles mobilisations sont prévues les 20 et 21 septembre pour réclamer le départ du chef de l'État.
Dili Diko au Niger, un nouveau bilan de l'ONU indique qu'au moins 50 personnes sont mortes après des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur ce pays désertique. Au Nigeria, plusieurs gouverneurs ont lancé des appels au calme à la suite des affrontements entre partisans de l'indépendance du Biafra et forces de sécurité. Craignant que ces tensions ne prennent une dimension interethnique, le gouverneur Simon Lalonde a déploré des violences inévitables et totalement inutiles. Toujours au Nigeria, la milice qui lutte contre Boko Haram aux côtés de l'armée dans le nord-est dit renoncer à ne plus recruter ni utiliser d'enfants. D'après l'ONU, la Civilian Joint Task Force a utilisé 228 enfants, dont certains d'au moins de 9 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Condamnation dans le monde à la suite du nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord. Il a atteint une distance inédite en survolant le Japon. Il y a 5 jours, l'ONU a adopté une 8e série de sanctions internationales. Nathalie Barge.
Tout en condamnant le tir de Pyongyang, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé la tenue de discussions sur la crise à New York la semaine prochaine, tandis que le Conseil de sécurité a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. La Chine s'oppose à la violation par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité et à son recours à la technologie de missiles balistiques pour des tirs, a déclaré la porte-parole des affaires étrangères chinoise, Hua Chunying, tout en estimant que les parties en présence devaient faire preuve de retenue. Moscou a également réagi. Nous condamnons fermement la poursuite de ces actes provocateurs qui mènent à une escalade des tensions, a souligné le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Les présidents russes et français Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé à des négociations directes avec la Corée du Nord. Lors d'un entretien téléphonique, ils se sont montrés unis concernant le caractère inadmissible d'une poursuite de l'escalade, explique le Kremlin. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a appelé Pyongyang à cesser ses provocations imprudentes et à abandonner ses programmes d'armes nucléaires, tout en menaçant de nouvelles sanctions européennes.
Un attentat dans une station du métro londonien a fait 29 blessés. Un engin explosif artisanal a provoqué une énorme détonation, une boule de feu près de la station de métro de Parsons Green dans le sud-ouest de Londres. C'est le 5e attentat en 6 mois au Royaume-Uni. Le groupe État islamique a revendiqué cette vague d'attaques. La réaction intempestive du président américain Donald Trump a provoqué la colère de Theresa May et un nouvel accroc dans la relation spéciale entre Londres et Washington. Monsieur Trump a décoché une flèche à la police britannique en lui reprochant de manque d'anticipation. La réponse de la dirigeante britannique a été cinglante. Là, je pense qu'il n'est aucune aide pour quelqu'un de spéculer sur une enquête en cours, a-t-elle dit. En France, l'opération militaire Sentinelle a une nouvelle fois été la cible d'une attaque. Un homme armé d'un couteau a agressé un soldat en plein centre-ville de Paris sans faire de blessés. Ce dispositif sécuritaire a été mis en place après les attentats de janvier 2015. Et le président français Emmanuel Macron a promulgué deux lois de moralisation de la vie politique. Le texte interdit notamment les emplois familiaux de collaborateurs. Le parti radical italien a déposé une plainte au parquet de Rome contre des soupçons d'accord entre l'Italie, des responsables libyens et des chefs de milices impliqués dans le trafic de migrants. Cet accord vise à stopper les migrants. Et la Commission européenne a proposé une réforme des règles de financement des partis politiques européens. Elle vise à renforcer leur légitimité démocratique et à sanctionner plus efficacement les abus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Pour l'actualité économique en Afrique, suivez la chronique de Jacques Aristide.
La plupart des pays en développement, dont en Afrique, ont évité l'austérité entre 2011 et 2015, contrairement aux pays riches, mais font face désormais à de sérieux risques de dégradation de leur situation, d'après le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Plusieurs facteurs sont avancés, une hausse de l'endettement, une instabilité politique, la chute des prix de produits de base et l'appréciation du dollar notamment. Cette agence onusienne conclut que l'économie mondiale, qui peine à décoller, a besoin de nouveaux plans Marshall qui devraient s'inspirer de celui de 1947. Le cacao s'est inscrit en légère hausse sur les marchés internationaux ce vendredi. Après une récolte particulièrement abondante, les prix avaient plongé en octobre dernier et peinent désormais à trouver une direction forte. La récolte de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, est particulièrement observée. Elle s'annonce à nouveau élevée, mais moins que l'année précédente. Au Kenya, les recettes de l'État depuis juillet ont diminué de 29 milliards de shillings, soit 282 millions de dollars. Les investisseurs reportent leurs projets en raison de l'incertitude quant à la nouvelle présidentielle fixée au 17 octobre. Le gouvernement a réduit ses dépenses non essentielles, comme les voyages à l'étranger, pour financer ce scrutin.
Et nous passons directement au sport. C'est avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
On commence avec de l'afro-basket masculin 2017 à Tunis. On joue les demi-finales.
Le choc de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal-Nigeria. Le tenant du titre qui a dominé le Cameroun, sans surprise, 106 à 91 hier. Le Sénégal lui a réussi à se débarrasser de l'Angola, 66 à 57.
Et en football, les quarts de finale de la Ligue africaine des champions, Nico.
Au Mozambique, le Ferroviaro de Beira accueille l'USM Alger qui a démarré timidement le championnat algérien. À Alexandrie, dans une ambiance de feu, Al Ahly qui reçoit l'Espérance sportive de Tunis. Dans le troisième quart de finale à Pretoria, le champion en titre, les Mamelodi Sundowns, auront fort à faire contre le Wydad de Casablanca. Enfin, à Alexandrie, Al Ahly de Tripoli contre l'Étoile sportive du Sahel.
Et la Coupe de la Confédération reprend dès ce soir, Nicolas.
Oui, le Supersport United accueille dès ce soir le Zesco de Zambie, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Et puis le choc à Rabat entre le FUS et le club sportif sfaxien. Et au stade du 5 juillet à Alger, le Mouloudia Club accueille les Tunisiens du club africain.
Précisons, Nicolas, que pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, la rencontre entre les deux United, sous passeport de l'Afrique du Sud et Zesco de la Zambie, s'est soldée sur un score nul de 0 à 0. Enfin, la première demi-finale de la Afro-Basket est terminée. La Tunisie s'est qualifiée pour la finale en dominant le Maroc 65 à 2 et connaîtra son adversaire à la fin du choc ouest-africain Sénégal-Nigeria en cours.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manidakiza, deuxième partie de cette édition pour aborder les dossiers du jour. Peut-être une nouvelle voie pour la sortie de crise au Mali. Des organisations islamiques du pays ont lancé un appel au dialogue avec les djihadistes, initiative de Mahmoud Diko, responsable du Haut Conseil islamique du Mali. Il est mandaté pour négocier directement avec les groupes armés non signataires des accords de paix. Bagassikoura, adjoint à Bamako, Mahmoud Diko.
C'est un devoir citoyen pour moi, c'est un devoir aussi religieux de chercher vraiment à ce que la paix, l'attitude, je sais que c'est une charge très lourde, mais je ne peux pas me dérober. Je vais m'y mettre et je ferai tout ce qui est vraiment dans mon possible pour que ça soit une réalité, pour que vraiment notre pays, qui a vécu une souffrance qui n'a que trop duré, trouver une solution à cela. Et je ne peux pas prétendre le réussir seul. Tous les enfants de ce pays, toutes les confessions religieuses réunies, hein, ensemble, que nous puissions vraiment réussir ce challenge qui est vraiment de restaurer la paix et la quiétude dans notre pays.
Vous allez négocier avec ces groupes non signataires de l'accord de paix, mais certains les appellent des groupes terroristes.
Mais moi, je ne sais pas. C'est certains qui les appellent. Moi, je suis seulement commis pour essayer de parler avec tous les enfants du pays qui se reconnaissent dans la République. Maintenant, les gens peuvent avoir d'autres points de vue ou d'autres divergences, mais tant qu'ils acceptent vraiment le principe républicain de notre pays et que nous puissions parler pour avoir la paix, moi je pense qu'il faut parler avec eux.
Si on est arrivé là, c'est aussi peut-être le signe que cette crise ne peut pas être réglée seulement sur le plan militaire.
Mais aucune crise, aucun conflit n'a pu être réglé seulement que sur le plan militaire. Aucun. Dites-moi, dans l'histoire, quel est le conflit qui a pu vraiment se résoudre seulement sur le plan militaire? Il faut nécessairement prendre compte des autres réalités de cette crise. C'est vrai qu'elle a une dimension spirituelle. Donc, pour cette dimension-là, il faut l'intégrer et voir pourquoi les uns et les autres revendiquent de cette façon.
Vous savez que les positions sur cette question du terrorisme sont très tranchées. Hein? À Bamako, certains disent qu'il ne faut jamais négocier avec Iyad Gally. Comment vous comptez les convaincre?
Moi, on m'a jamais dit de négocier avec Iyad ni quelqu'un d'autre. On m'a dit simplement de négocier avec les enfants de ce pays qui se reconnaissent dans la République. On ne m'a jamais dit spécifiquement qu'il faut aller négocier avec Iyad. Personne ne m'a demandé ça.
Si vous avez l'occasion de discuter avec lui, vous allez le faire.
Je ne le ferai pas de moi-même. C'est l'État malien qui m'a commis, donc moi je me limite à ce qui m'a été dit. Si négociation doit être faite, c'est l'État qui décide de cela, ce n'est pas moi.
Mahmoud Diko à Bamako au Mali.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVOA Afrique 24h sur 24.
N'Djamena rejette le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Tchad, intitulé « Entre répression et récession ». Cette ONG épingle le gouvernement tchadien qu'elle accuse de bâillonner le peuple, notamment les associations de la société civile. Au micro de notre correspondant sur place, André Kodmadjingar, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, chargé aussi des droits humains, a réfuté cette accusation. Suivez Ahama Mahama Hassan.
Nous sommes surpris parce que j'ai reçu les membres d'Amnesty International qui étaient de passage en N'Djamena le mercredi dernier et ils m'avaient remis officiellement leur rapport. Franchement, le rapport n'allait pas être de ce contenu si on avait échangé avec Amnesty avant la rédaction même de ce rapport. Premièrement, le rapport ne souligne pas assez les efforts qui sont développés par le Tchad depuis ces dernières années en matière de consolidation de l'état des droits et de la démocratie dans notre pays. Je trouve sincèrement que c'est injuste, c'est pas assis sur des réalités. Ils n'avaient pas eu vraiment peut-être le temps nécessaire de bien vérifier pour mieux asseoir la crédibilité de leur affirmation.
En tant que citoyen tchadien, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut ouvertement critiquer le gouvernement tchadien aujourd'hui et ne pas être menacé d'une manière ou d'une autre par le pouvoir en place?
Il n'y a pas eu de législation, à ma connaissance, intentionnellement ou une politique planifiée de la part des dirigeants du Tchad et de l'État tchadien pour pouvoir réprimer toute forme de contestation ou toute action des activistes des droits de l'homme et autres. Je crois que c'est très injuste.
Le rapport révèle que 65 associations sont interdites de manifester en 2 ans. Plus de 10 sites internet sont bloqués en 2016 et l'ANS, Agence nationale de sécurité, sévit plus que jamais. Monsieur le ministre, cela ne ressemble pas trop à un pays où il y a la liberté d'expression, non?
La législation dont ils font cas, c'est les arrêtés d'interdiction du ministère de l'Intérieur en matière de manifestation. Et ça, le ministre de la Sécurité publique ou le Tchad a pris ses décisions par rapport à un contexte sécuritaire très difficile. Le droit de manifester est reconnu par la Constitution tchadienne. C'est pas à Amnesty de nous le rappeler. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des législations qui existent depuis 1960 quant à la question de l'autorisation préalable. C'est vrai, il y a eu la Conférence nationale souveraine. C'est vrai, il y a eu la Constitution de 1996. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des législations qui existent depuis 1960. Le ministre n'a fait que conformer à la législation existante qui est toujours en vigueur. Maintenant, est-ce qu'il y a un service dédié pour la sécurité et qui est aussi orienté pour la répression systématique des citoyens ou de toute forme de contestation? Ça, vraiment, on est à un point d'assimiler l'Agence nationale de sécurité, qui est une recommandation de la Conférence nationale souveraine de 1993, à la défunte DDS. Et ça, je trouve que c'est dommage. Il y a un déficit d'objectivité à ce niveau-là.
Quelles sont les actions qui ont été réalisées ce dernier temps au Tchad, justement, pour favoriser le respect des droits de l'homme?
Nous avons revisité notre législation pénale, notamment le code pénal qui vient d'être rendu public, promulgué par le chef de l'État. Nous avons supprimé la peine de mort. Nous avons eu beaucoup d'avancées. Les mécanismes de rapport entre les partis de l'opposition, et les membres de la société civile est aujourd'hui marqué par une approche de dialogue et de concertation permanente. Nous sommes ouverts pour toute forme de critique objective pouvant nous aider à reconnaître nous-mêmes nos limites.
Arma Mahama Hassan, ministre tchadien de la Justice. Et en Centrafrique, la FIDH, Fédération internationale des droits humains, s'inquiète de l'entrée au gouvernement de 5 ministres, membres des ex-Séléka et Antibalaka. Ces deux mouvements armés sont accusés de graves violations des droits humains et restent encore actifs dans certaines régions où ils contrôlent des ressources naturelles. Pour en savoir davantage, Nathalie Barge a joint à Bangui la coordonnatrice de la FIDH en Centrafrique, Martha Riggio.
On n'a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis les personnalités qui ont été nommées, mais vis-à-vis les mouvements et les milices qu'ils représentent. On croit fortement au dialogue politique, mais il y a vraiment pour nous des lignes rouges. C'est-à-dire, ces lignes rouges sont la lutte contre l'impunité et la justice. Et vu qu'il s'agit des groupes qui ont vraiment et à la base de la crise de 2013-2014 et qui sont toujours des acteurs principaux des violences qui circulent à la RCA depuis le début de l'année, on s'inquiète de cette ouverture.
Vous rappelez à ce propos le fait de devoir mettre l'accent notamment sur la Cour pénale spéciale à Bangui.
Absolument, absolument. Ça sera un peu l'indicateur de la direction que les gouvernements prennent avec aussi ces nominations. Ils doivent aller ensemble avec, d'un côté, des signaux très forts des groupes armés de leur volonté de paix. Et un indicateur aussi sera, on espère, la baisse des violences dans les prochains mois. Et ça doit s'accompagner à des efforts véritables d'opérationnalisation de la DPS, la Cour pénale spéciale, qui va juger les crimes commis aussi par les groupes qui sont maintenant représentés au gouvernement. Du coup, ça reste la priorité pour nous dans les pays. Il ne peut pas vraiment y avoir la véritable réconciliation en justice.
Vous rappelez également dans votre communiqué l'importance du désarmement en Centrafrique.
Oui, ça reste une première étape des outils transitionnels. c'est un engagement qui vous permet aujourd'hui au gouvernement et ça reste un engagement fondamental en RCA aujourd'hui. La circulation des armes est très importante en RCA aujourd'hui.
En ce qui concerne la nomination de ces ministres, est-ce que vous craignez par là peut-être que la Cour spéciale soit un petit peu entravée justement par toutes ces nominations et qu'elle ne travaille pas, disons, dans la meilleure des intégrités ?
Non, c'est pas une crainte pour nous. La priorité reste vraiment les bons fonctionnements de la CPS. On est encore dans un état où il faut fournir les moyens à la CPS et au procureur spécial pour faire leur travail.
Marta Riggio, coordonnatrice de la FIDH en Centrafrique.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Au Congo-Brazzaville, les femmes ont réalisé une percée dans les postes électifs. Deux parmi elles dirigent pour la première fois les conseils départementaux. C'est le résultat d'une sensibilisation accrue autour d'une loi accordant 30% des places aux femmes sur les listes électorales. À Brazzaville, la correspondance d'Onguela Ngusu.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
Très déjà, c'est bon. Parce qu'au départ, on n'était que 12. Là, on vient d'ajouter 2, c'est bon. En tout cas, on est assez satisfait. Le combat, on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne peut pas baisser les bras. On continuera à mener le combat.
Deux femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays, chose qui était impossible il y a encore quelques semaines. La ministre de la Promotion de la Femme, Nefer Inès Ingani, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Les résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montre que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée homme-femme dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire-Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Mais écoutez, mais si la loi donne 30% aux femmes, c'est même les femmes de se lever. Ils disent que non, nous, on doit respecter quand même la loi. Hein, donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il ne faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlaient pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. Hein, la femme doit prendre des décisions elle-même.
Analysons globalement le problème. Rock Eloge Nzobo, un activiste des droits politiques et civiques, indique que c'est tout le système électoral du pays qui n'avantage pas les femmes.
On ne peut pas régler le problème de la femme tant que, justement, nous n'allons pas sur des bases démocratiques bien définies. Il s'agit des nominations où on décide de qui on peut mettre à telle place. Parce que vous voyez, il y a les forts taux d'abstention. Je refuse toujours de voir la légitimité de ces élections. Et il n'y a pas amélioration tant que nous n'allons pas revoir les fondamentaux même des principes de la démocratie, des principes de processus électoral, que ce soit la question de découpage électoral, la question des listes électorales, la question de la commission indépendante électorale. Toutes ces questions doivent être débattues. À ce moment-là, lorsque nous aurons des résultats, on pourra évaluer de manière objective, de manière concrète.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Nguela Ngusu, Brazzaville, VO Afrique.
C'était donc Nguela Ngusu qui nous donner ces précisions à Brazzaville. Nous suivons maintenant, avant de vous quitter, salsa à l'africaine. C'est vendredi, oui. Vous le savez, ce soir, ça va chauffer. C'est Barbara Kanam, Viva del Congo, que nous propose Georges Léonard Sagno. Et, ouais, Viva del Congo.
Congo na biso, Congo ya bakoko.
Oui, ça donne envie de danser. Malheureusement, c'est la fin de cette édition. Georges et Léonard Sagnot assurer la mise en onde, Eric Manila Kiza à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com 24/24. À très bientôt.
Et tout de suite,